Lizzy présente Face à la mer immense de Lorraine Fouchet, lu par Fabienne Loriot, avec la participation de Sophie Frison et Maxime Van Sanfort. À Christophe Loupe et Nathalie Moschetti. Je ne connais ni leur passé, ni leur famille, ni le parfum de leurs pièces montées. Je sais seulement qu'ils s'aiment. Au pain maison, au rire léger, à l'océan, à ceux qui me sont tendres. À Groix, le juste endroit de ma vie. L'homme ne se retourne même pas. Il continue à fixer la mer. Silence. De temps en temps, il trempe le pinceau dans une tasse de cuivre et trace sur la toile quelques traits légers. Les soies du pinceau laissent derrière elles l'ombre d'une ombre très pâle que le vent sèche aussitôt en ramenant la blancheur d'avant. De l'eau. Dans la tasse de cuivre, il n'y a que de l'eau. Et sur la toile, rien. Rien qui se puisse voir. Alessandro Barrico, Océan-mer. Prune. Le réveil de son portable sonne au milieu d'un rêve. Elle s'y promène avec Quentin, main dans la main, sur une plage de l'île bretonne de Groix. C'est marée basse, l'océan clapote, la laisse de mer brille au soleil, les coquillages scintillent, goélands et mouettes planent. Tout est paisible. Arrachée en sursaut à cette sérénité, Prune résiste à l'envie de pulvériser le téléphone. Elle ne déroge pas à ses habitudes et consacre les premières minutes de sa journée à des étirements, puis elle avale deux cafés serrés et un petit pain maison tartiné de beurre. Elle sert ses croquettes à son Westie, mon petit pote, MP pour les intimes. Des lambeaux de rêve flottent dans son esprit. Il la blesse parce que c'était le temps d'avant, celui de la maison Amande. Prune vit seule à présent. Elle n'a pas remis les pieds à Groix depuis 18 ans. La réalité est crue, violente. Pas de bras, pas de chocolat. Pas d'enfant, pas d'amoureux. Juste son chien. Elle consulte ses messages, lit ses mails. Romancière, elle consacre une heure chaque jour au courrier de ses lecteurs et tombe sur une demande si originale qu'elle en écarquille les yeux. Le petit chien blanc, habit de clown, dresse les oreilles, penche la gueule à droite, puis à gauche, fixe sur elle ses yeux noirs en boutons de bottine. La Seine coule de l'autre côté de la verrière. Une longue péniche remonte le fleuve, son nom se détache en lettres blanches sur sa coque sombre. Liberté. C'est un signe. Une île, cette île, 10 mois plus tôt.
Fleur. Je vis à Rouen avec mon fils Éric. On s'entend bien. J'aime la lecture, la musique, le cinéma. Je n'aime pas cuisiner, regarder la télé, encore moins faire du sport. Charlie, le père d'Éric, était fleuriste comme ses parents. Il avait rebaptisé sa boutique pour moi « Aux fleurs de fleurs ». Lorsque notre fils est né, nous nous sommes mariés en prenant pour témoin mon frère Julien et la sœur de Charlie, sans convier nos parents, sans messe, sans tout le tralala. Juste un passage à la mairie, suivi d'un joyeux déjeuner à quatre. Notre vie était douce, fleurie et parfumée, jusqu'au jour où une femme, aux cheveux bleus, est venue nous acheter des roses moussues. Des Henri Martin, l'avenue rouge au Monopoly, entre le boulevard Malesherbes et la gare du Nord. La cliente à la coiffure de Schtroumpfette a flashé sur le regard lavande de Charlie et lui a proposé un rôle dans la série télévisée Léoncie, dont elle était la productrice. Charlie est devenu le fleuriste du petit écran pour plusieurs saisons. Son feuilleton cartonnait, les gens le reconnaissaient dans la boutique et dans la rue. Au début, ça nous amusait, ça dopait les ventes, après c'est devenu beaucoup moins drôle. Souvent, quand on se promenait en famille, on lui demandait des autographes. C'est arrivé un jour où il était seul avec notre fils qui, pendant que son père signait un idiot de papier, a aperçu un chien de l'autre côté de la rue, traversé en courant pour le rejoindre et failli se faire écraser. Charlie croyait vraiment qu'il allait devenir célèbre. Des acteurs de sa série l'ont emmené à quelques soirées courues et il s'y est cru légitime. Ça ne l'amusait plus de jouer au père de famille ni de se lever à 4 heures du matin pour aller à Rungis. La série a fini par perdre de l'audimat, devancée par une série concurrente. Alors les scénaristes ont pris une décision drastique. Tuer Charlie. Pas mon Charlie à moi, mais le personnage du fleuriste. Il les a suppliés de le laisser en vie. Il aurait accepté des mois de réanimation, des séquelles, un handicap, ce qu'il voulait, mais ils l'ont assassiné. Il n'a pas supporté. À la fin d'une soirée trop arrosée, il s'est battu avec le réalisateur. L'autre a eu le nez cassé et deux dents abîmées. Il a porté plainte. Charlie a été blacklisté par tout le milieu. Ça a été le début de la fin. J'espérais naïvement qu'il allait se reprendre, se calmer sur la picole, retrouver ses esprits, nos roses et nos pivoines. Au lieu de cela, il a disparu. Pendant tout l'hiver, on n'a plus eu aucune nouvelle. Même le jour de l'anniversaire d'Eric ou à Noël. Je n'avais aucune adresse où le contacter. Il ne répondait plus au portable. Et puis un soir, il a débarqué à la maison, les yeux injectés de sang. Il nous a annoncé qu'il partait vivre en Allemagne où il avait des contacts, qu'il allait rebondir et qu'on serait fiers de lui. J'ai tenté de le raisonner, lui répétant qu'il n'avait pas besoin de faire le guignol à l'écran pour qu'on l'aime. « Je suis désolée, Fleur. Je ne suis plus le type minable que tu as connu. »«
Tu n'étais pas minable ?»«
Je n'étais personne. »
Parce qu'être n'importe qui le temps d'un tournage, tu trouves ça mieux?
Tu ne peux pas comprendre.
Il a serré Eric contre lui trop fort, comme s'il endossait le rôle de père aimant pour sa foutue télé. Puis il est parti. Je me suis débrouillée. Je n'ai jamais dit à Eric du mal de son père. On l'a aperçu à la télévision, en silhouette parlante dans des polars allemands diffusés l'après-midi où il prononçait moins de 5 mots. Puis il a été rétrogradé au statut de figurant muet. L'homme qu'on ne remarque pas. Le client attablé dans le restaurant derrière les acteurs qui dînent en gros plan. Le serveur qui apporte le dessert, le conducteur qui s'arrête au feu rouge le long de la voiture des héros. Le contrôleur dans le train, un individu, un fantôme. Enfin, il a disparu des écrans et de notre vie. Au bout du délai légal de 2 ans, notre divorce a été prononcé pour abandon du domicile et altération définitive du lien conjugal. J'ai déchiré le faire-part en papier gaufré que ma mère avait insisté pour envoyer à la famille et aux amis conformément à la tradition, même après notre mariage sans cérémonie. Monsieur et Madame Gaston Carville, Monsieur et Madame Pascal Barège sont heureux de vous faire part du mariage de Mademoiselle Fleur Barège, leur petite fille et fille, avec Monsieur Charlie Noir. Gaston Carville et mon grand-père maternel, que mon frère et moi appelons bon papa. À l'époque, notre grand-mère, bonne maman, était encore de ce monde. Mon père, Pascal Barège, n'était pas encore divorcé de ma mère ni remarié avec Sylvana, qui est plus jeune que moi. Ma mère, née Anne Carville, devenue Anne Barège par son premier mariage, était encore sa femme. Elle n'avait pas encore épousé Amable de Vonne, qui a l'âge de mon grand-père.